Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Dan je pri kraju, ono sve dalje sja, hita da drugi oživljava svet. O, što me krila ne dignu sa tla, pa za njim večno da upravljam svoj let. Divnog li sna, dok ono dalje kreće, ah, kuda lete krila bez telesna, telesna krila vinuti se neće.
Nikola Tesla, une vie électrique. Une grande traversée de Matteo Caranta.
D'abord, quelques minutes avant qu'il s'extrait de sa mère, et comme tout le monde s'affaire dans la grande maison, cris de maître, entrechoque de valets, bousculade de servantes, dispute entre sage-femme et gémissement de la parturiente, un orage fort violent s'est levé. Précipitation granuleuse et très dense, provoquant un fracas étal, feutré, chuchoté, impérieux comme s'il voulait imposer le silence, distordu par des mouvements d'air cisaillants. Ensuite et surtout, un vent perforant de force majeure tente de renverser cette maison. Ce vent fait valser toutes les choses, bascule les meubles en soulevant les tapis, brise et dissémine les bibelots sur les cheminées, fait tournoyer au mur les crucifix, les appliques, les cadres qui voient s'inverser leur paysage et culbuter leurs portraits en pied. Convertissant en balançoire les lustres sur lesquels s'éteignent aussitôt les bougies, il souffle également toutes les lampes. Le tonnerre couvre son premier cri pendant que la foudre incendie la forêt alentour. Naissance hors du temps, donc, et hors de la lumière, car on ne s'éclaire qu'ainsi à cette époque, à la cire et à l'huile, on ne connaît pas encore le courant électrique.
Deuxième épisode, et la lumière fut.
Dans son acte de naissance, le prénom qui figure n'est pas Nicolas, mais Nikolai Tesla.
Alexandra Ninkovic-Tazic.
Comme il est né chétif et fragile, on a craint pour sa vie. Son père et son oncle lui ont donné le prénom Nikolai, qui est un prénom de moine, pour qu'il survive.
Nikola Tesla est né en 1856 à Smiljan, qui est une petite bourgade de ce qu'on appelait à l'époque la frontière militaire.
Catherine Aurel.
C'est une zone frontalière qui est issue de la reconquête sur l'Empire ottoman à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, où on a créé une sorte de zone tampon pour protéger l'Empire des Habsbourg de l'Empire ottoman qui était encore présent dans les Balkans. Et les populations qui étaient sur place, et en l'occurrence la famille de Nikola Tesla, qui est une famille serbe, étaient des populations qui s'étaient enfuies de l'Empire ottoman à la fin du XIVe siècle, début du XVe siècle, quand l'Empire ottoman avait poussé son avantage dans les Balkans, et un nombre considérable de personnes avaient préféré fuir l'Empire ottoman. Ensuite, ces populations se sont trouvées sur place quand l'Empire des Habsbourg a commencé à reconquérir ses territoires sur l'Empire ottoman. Et il s'est servi de ces populations, de ces villages, et il en a fait des villages militarisés.
Sa maison, dans le petit village de Smiljan, où il est né, était très éloignée des autres maisons. Le premier voisin était à 3 km.
Zorica Sivric.
C'était dans les montagnes. Et l'hiver, leur maison était complètement isolée par la neige, par la nature et les phénomènes naturels. Et donc, on peut dire que Tesla a eu une enfance pastorale.
« Giuca Tesla. Nije bila pismena.
Giuca Tesla, sa mère était analphabète. Elle ne savait pas écrire. Mais d'après Nikola Tesla, elle avait du génie. Il disait, si ma mère avait pu aller à l'école et suivre une éducation, elle aurait été une plus grande scientifique que moi. Il disait que sa mère, après l'âge de 60 ans, était capable de prendre par deux doigts son cil et qu'elle pouvait en faire trois nœuds consécutifs. Nous savons que c'est impossible, mais cela montre la mesure de l'amour qu'il lui portait.
Il adorait vraiment sa mère et il disait que son don pour l'invention lui venait d'elle.
Vladimir Pistalo.
Bien qu'elle était analphabète et que son père était un homme très instruit. Le père était un intellectuel, un homme d'une grande intelligence. Mais elle, elle avait davantage, pas forcément d'intelligence, mais d'intuition. Et Tesla était tellement lié à elle que lorsqu'elle est morte, il a oublié tout ce qu'il savait. C'était comme si quelqu'un avait versé du lait dans son cerveau. Tout est devenu laiteux et brumeux et il a dû se ressouvenir de tout. C'était au milieu de sa vie, il a dû se remémorer tout ce qu'il avait appris. C'est aussi pour ça qu'on constate souvent des incohérences dans ses autobiographies.
À la fin de sa vie, Tesla passe énormément de temps à analyser sa propre personnalité, ses émotions et le cours de son existence.
Bernard Carlson.
Sauf erreur, son autobiographie commence littéralement avec le récit de ses parents qui lui préfèrent son frère. Pour quelqu'un qui a eu tant de succès, c'est très révélateur. Quand on lit son autobiographie de 1919, on ne peut que se dire, mais quelle étrange manière de commencer.
Son frère Dan était plus âgé que lui, il était absolument brillant et avait le même don de vision irrationnelle. Il avait aussi ce filtre doré, mais il est mort. Tesla ne s'en est jamais remis, jamais. Parce que son frère était comme le jeune Joseph de la Bible, le prince spirituel. Tesla pensait « Je ne pourrai jamais être comme Dan, c'est comme ça, je ne suis qu'un voyou comparé à lui. » Même au sommet de sa carrière, il a été une des plus célèbres figures en Amérique. Même à 70 ans, alors qu'il fait la une du Time, même à ce moment-là, Tesla pense à son frère. Je pense que le lien entre Tesla et Dan était quasiment organique, et ce, durant toute sa vie. Et il s'est senti très coupable après sa mort. Il existe une version qui dit qu'il a poussé Dan dans les escaliers et que Dan s'est brisé le cou. Une autre version raconte qu'il est tombé du cheval préféré de son père. Dans les deux cas, Tesla est là. Laquelle est vraie, Dieu seul le sait.
Lorsque je ferme les yeux, je vois toujours d'abord un fond d'un bleu uniformément sombre, comme le ciel par une nuit claire, mais sans étoiles. En l'espace de quelques secondes, ce champ s'anime d'innombrables petites étincelles vertes, disposées en plusieurs couches, qui avancent vers moi. Puis, apparaissent sur ma droite deux paires de belles lignes parallèles très étroites qui forment un angle droit et qui ont toutes les couleurs, mais où le jaune, le vert et l'or prédomine. Ensuite, les lignes deviennent de plus en plus éclatantes et l'ensemble est parsemé de taches de lumière scintillantes, très serrées. Cette image traverse lentement tout le champ de ma vision et au bout de 2 secondes, disparaît sur ma gauche en laissant un fond d'un gris inerte et déplaisant, qui devient très vite une mer de nuages, cherchant manifestement à se transformer en forme vivante. Il est étrange que je ne puisse projeter aucune image dans cette mer grise avant la seconde phase.
Formellement, vous savez que son père était prêtre, orthodoxe.
Branimir Jovanovic.
Lui-même se déclarait croyant orthodoxe. En général, il se définissait comme chrétien et pas spécifiquement orthodoxe. Mais toute sa vie, il a cherché la réponse à ce secret. Il a cherché à dévoiler le secret de l'existence de Dieu.
Son père n'était pas seulement un prêtre, c'était aussi un mathématicien. Il a hésité entre devenir professeur de mathématiques et prêtre. Et il a choisi la prêtrise, tandis que son frère enseignait les mathématiques. C'est très intéressant. D'habitude, on simplifie les choses en disant que son père était un simple homme de religion et que Tesla le fuyait. Ce n'est pas vrai. Son père était un prêtre qui représentait aussi le siècle des Lumières. Son grand-père était un soldat de Napoléon. Pour le grand-père et le père de Tesla, c'était liberté, égalité, fraternité. Et c'était très important pour le père de Tesla, parce qu'il a insisté et a inculqué cela à son fils. C'était une sorte de religion, oui, mais aussi une philosophie des Lumières.
Lika je planinski predeo i sa brežuljcima i sa šumama, sa potocima,
Lika est une région très diversifiée avec beaucoup de collines, beaucoup de ruisseaux, de montagnes, beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux.
Je bilo puno domaćih životinja.
La maison de Tesla était comme une petite ferme entourée d'animaux domestiques. Sa mère s'occupait du bétail, avec quelques aides. Et Tesla, d'une certaine manière, était imprégné de tout ce qui l'entourait, de cette nature qui le fascinait. Il y avait souvent des phénomènes naturels très excitants, des orages, et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui le touchait beaucoup. Il y avait par exemple des inondations à cause de la fonte des neiges. Et tous ces événements ont confronté Tesla très jeune, à la fois au côté très dangereux de la nature, mais aussi à la beauté de ces phénomènes.
Il y a un souvenir qui a durablement marqué Tesla. Lors d'une rude nuit d'hiver, alors que Tesla a 5 ans, un chat rentre chez lui pour se réchauffer. Le chat secoue son pelage pour enlever la neige qui le recouvre et il produit soudain une multitude d'étincelles. Tesla se met alors à caresser le chat qui continue à émettre des étincelles. Imaginez donc Tesla qui fait un bond pour interroger son père. Mais si je reçois des étincelles qui ressemblent à des éclairs en caressant le chat, alors qui est-ce qui caresse la terre pour produire la foudre? Son père lui répond, c'est Dieu qui le fait. Son père est un prêtre orthodoxe. Cependant, Tesla n'oubliera jamais ce qu'il vient de découvrir. Les forces de la nature peuvent être dirigées de la même façon qu'il caresse ce chat.
I on je nastavio o tome da razmišlja. I zanimljivo je da kada je imao 83 godine, on je tada priču o ovom mačku.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'à 83 ans, il raconte encore cette histoire dans une lettre qu'il adresse à une petite fille.
To rano sećanje u njemu bilo živo i duboko i on ga je opisao.
C'est un événement qui restait très vif dans sa mémoire. Et dans sa lettre, il termine sa description en disant « Cela s'est passé il y a très longtemps, mais je n'ai pas toujours la réponse à la question de connaître la nature de l'électricité. »
Nema odgovor na pitanje šta je elektricitet.
Mais c'est cet événement avec le chat qui a jeté cette étincelle et qui s'est développé plus tard en feu de la création.
Ce que je trouve intéressant chez Tesla, c'est la tension entre l'idéal et l'illusion, à partir desquelles il cherche à faire émerger le principe fondamental qui explique le fonctionnement de ses inventions. Je pense que cela provient des conversations qu'il a eues avec son père, prêtre orthodoxe serbe, ou avec ses oncles, qui étaient prêtres aussi. Une des caractéristiques du christianisme orthodoxe grec, serbe et russe, c'est la notion de logos.
And by this, Orthodox theologians believe that everything in nature.
Les théologiens orthodoxes considèrent que tout ce qui existe dans la nature ou qui est créé par la main de l'homme reflète le raisonnement de Dieu. Il y a un célèbre passage du Nouveau Testament dans l'Évangile de Jean qui raconte qu'au commencement du monde était le Verbe et que le Verbe s'est fait chair. Pour Tesla, la mission est de trouver ce logos, ce Verbe, ce principe fondamental que Dieu a utilisé pour créer le monde et pour que l'homme l'exploite, ou disons plutôt pour qu'il l'utilise. Ses recherches étaient toujours tournées vers ce logos, cet idéal, ou ce principe fondamental qui structure chacune de ses inventions. Et donc, une fois qu'il cerne un nouveau logos, il est capable de plein d'inventions nouvelles.
Il sentait vivement qu'il y avait un centre dans le cosmos où toutes les énergies étaient regroupées et contenues. Il disait, je n'ai pas pu arriver à percer le secret de ce noyau, mais je sens cette énergie en moi. Si je devais la représenter d'une manière matérielle, je la qualifierais de lumière. Et si j'essaie de l'expliquer de manière spirituelle, je dirais que c'est la compassion et la beauté.
L'énergie cosmique existe partout, aussi bien dans les profondeurs de la Terre que dans les couches élevées de l'atmosphère. Mais pendant longtemps, il a été impossible de prouver qu'elle existait. Jusqu'au moment où j'ai effectué certaines découvertes et établi cette existence, sans aucun doute possible. J'ai mesuré l'intensité de l'énergie en question, l'effet qu'elle produit, et il m'est possible de calculer avec précision la considérable puissance qu'un appareil de ma conception est capable de développer. Cette nouvelle puissance, destinée à la marche des machineries du monde, dérivera de l'énergie de l'univers. Sa source centrale pour la Terre est le Soleil. Elle existe en quantité illimitée.
Nikola Tesla je vaspitavan.
L'éducation de Nikola Tesla s'est faite en écoutant la poésie nationale populaire. Et c'est sa mère, Djuka, une femme illettrée qui récitait et qui a transmis à son fils ce goût de la poésie et des contes traditionnels, comme l'histoire du prince Marko Kral. Sa mère était illettrée. Mais son père, prêtre orthodoxe, était un érudit. On dit qu'il avait la plus grande bibliothèque de tout son entourage. Nikola Tesla raconte qu'il lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Il a même eu peur d'avoir perdu du temps avec toutes ses lectures de poèmes autochtones ou d'histoires de Mark Twain. Mais il s'est rendu compte par la suite que c'était la meilleure chose qu'il ait faite dans la vie. Sans livres et sans poésie, Nikola Tesla n'aurait pas existé. C'est quelqu'un qui aime, mais surtout qui embrasse la poésie. C'est la même graine, croyez-moi, qui fait naître la poésie et la science.
L'intuition a joué un rôle très important chez Nikola Tesla, particulièrement dans son processus de création. Et il y a un poète serbe qui s'appelle Laza Kostić, qui l'a qualifié comme quelqu'un se trouvant entre l'artiste et l'inventeur. Il l'a appelé un artiste. À l'époque, il n'y avait pas autant de séparation entre l'art, la philosophie et la science. Et d'une certaine manière, Tesla ne l'a pas fait non plus. Mais les gens de cette époque avaient fait un tour entre l'art et l'ingénierie pour devenir des hommes pensants en philosophes. Lorsqu'on fait une analyse de ce qu'a été Nikola Tesla, on peut dire que lui aussi, il a voulu dépasser cette différence entre technique, technologie et art. D'après lui, sa vocation était la science et la technique, il était ingénieur, mais il a aussi une approche d'artiste.
Être fils de pop, ça peut être un grand avantage parce que, justement, on va pouvoir étudier, ce que ne pourra pas un fils de villageois qui va être immédiatement mis à la ferme et à travailler la terre. Être un fils de pop, ça peut aussi être un désavantage parce que, pratiquement, on est destiné à devenir pop. Et y a des garçons à qui ça plaît pas du tout, et qui n'ont pas envie d'embrasser la carrière religieuse. Et dans le cas de Nikola Tesla, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait que, bien entendu, son père avait bien l'intention de le faire devenir pop, c'est le destin qui l'attendait. Et donc, il a, à force de, à la fois de conviction et puis certainement d'un peu d'indiscipline, il a réussi à convaincre son père que il était plus intéressé par une carrière autre, tout du moins une carrière d'études ou du moins un parcours d'études qui n'allait pas l'emmener au séminaire.
La clé pour comprendre la période européenne de Tesla, c'est le contexte. Quand il est en Europe, les découvertes et les événements autour de lui déterminent ses actions. Et si je devais prendre une image, je dirais qu'il était comme un enfant sur une balançoire qui se balance, qui monte, et au moment de tomber, une autre balançoire l'emmène ailleurs. C'est ça, sa période européenne.
Ce n'était pas du tout commun pour la région d'où il venait, l'ICA, car c'était une sous-région de la frontière militaire. C'était un désir assez atypique, en effet. Les professions les plus estimées à l'époque étaient officiers ou prêtres. En fait, c'était un vœu tout à fait avant-gardiste de vouloir devenir ingénieur. Il s'agissait d'un désir intrinsèque très fort. C'était plutôt une intuition. Et Tesla disait aussi que l'intuition est quelque chose de supérieur par rapport aux connaissances, par rapport au savoir. Il avait donc cette intuition très forte de vouloir devenir ingénieur.
C'est durant cette période que je contractais beaucoup de penchants, d'aversions, d'habitudes, dont certains sont imputables à des impressions extérieures, alors que d'autres sont inexplicables. J'avais une profonde aversion pour les boucles d'oreilles des femmes. D'autres bijoux, comme les bracelets, me plaisaient plus ou moins selon leur forme. J'étais au bord de la crise, à la seule vue d'une perle. Mais le scintillement des cristaux ou d'autres objets aux bords acérés et aux surfaces planes me fascinait. J'aurais été incapable de toucher les cheveux d'une autre personne. Je faisais une poussée de fièvre à la seule vue d'une pêche. Et s'il y avait dans la maison le plus petit morceau de camphre, j'éprouvais un profond malaise. Je comptais le nombre de pas que je faisais en marchant et calculais le volume des assiettes à soupe, des tasses de café et des aliments. Car autrement, je n'avais aucune envie de manger. Toutes mes opérations, ou tout ce que je faisais de manière répétitive, devaient être divisibles par trois, et si ce n'était pas le cas, je me sentais dans l'obligation de tout recommencer à zéro, même si cela me demandait des heures. Aujourd'hui encore, il m'arrive d'avoir quelques-uns de ces comportements compulsifs bouleversants. Lorsque je fais tomber des petits bouts de papier dans une coupelle remplie d'eau, je ressens dans ma bouche un goût bizarre et détestable.
Cette période européenne de la vie de Tesla a eu une grande influence sur son évolution. Je pense surtout à sa formation et à comment la période de ses études a résonné avec les événements historiques de l'époque. Tesla a commencé ses études à Graz en 1875 et seulement deux ans avant son inscription, il y a eu la grande exposition universelle de Vienne. C'est là qu'a eu lieu la première démonstration de la machine de Graham. Le thème le plus présent à cette exposition universelle, pour tous les ingénieurs électrotechniques, le mot n'existait pas à l'époque. Pour tous les techniciens, les inventeurs, les scientifiques, le thème principal sur lequel ils travaillaient tous était de construire et de trouver une source permanente d'énergie électrique. Si la machine de Graham, qui a été transportée après l'exposition à l'université de Graz, est si importante, c'est parce que par hasard, Graham et Fontaine avaient montré que cette machine, qui pouvait générer de l'énergie, pouvait aussi fonctionner en tant que moteur. Mais pas seulement. Cette machine pouvait être activée depuis un point éloigné. Ça veut dire que deux futures inventions ont commencé à naître simultanément. Le moteur électrique, mais surtout on commence à penser au transport de l'énergie électrique.
Il y avait un physicien français connu pour son expérience, l'expérience d'Arago. Il s'agissait en effet d'une sorte d'aimant en forme de fer à cheval qui pouvait tourner autour d'un arbre sur lequel était placée une plaque en cuivre. Et en tournant, il produisait l'électricité. Il y avait également l'expérience de Bailey. L'expérience de Bailey consistait à poser en croix quatre bobines de cuivre et à les alimenter par un courant alternatif. Et on obtenait l'effet d'un champ magnétique tournant. Donc, c'était déjà connu, le courant alternatif. Mais Tesla porte ses jouets scientifiques, ses principes connus, à une toute autre échelle. Ces inventions lui ont permis de produire des machines industrielles.
À
l'époque, existaient des machines électrostatiques. Certaines machines à induction pouvaient produire de l'électricité, mais ce n'était pas une source permanente d'énergie électrique. Avec la découverte de Faraday, de l'induction électromagnétique, on commence à réfléchir à perfectionner des machines qui seraient sources d'électricité. Et au tout début, c'était des machines à dynamo.
Il semblerait qu'effectivement, il était plus intéressé par l'aspect découverte, par l'aspect presque manuel des sciences. Ce qui intéresse Tesla, c'est quand même une formation pour continuer à poursuivre les expériences qu'il juge intéressantes. Et donc, plutôt que d'entrer directement à l'université, ce qu'il pense être certainement trop théorique pour lui, il se tourne donc vers la profession d'ingénieur. C'est un domaine qui se développe énormément à ce moment-là. Et ce sont des matières qui sont enseignées dans ce qu'on va appeler soit les écoles techniques supérieures, soit les polytechniques. Alors, on appelle ça des polytechniques à l'époque. Il y a dans certaines villes de l'Empire des Habsbourg des institutions d'enseignement qui s'appellent Polytechnicum. Et en fait, ce sont des écoles d'ingénieurs qui s'appellent dans d'autres lieux haute école technique supérieure.
Tesla a commencé ses études à Graz. À l'époque, c'était l'Empire austro-hongrois. C'était une des écoles les plus prestigieuses d'Europe. Quand Tesla est en deuxième année, il assiste à la démonstration de la machine de Théophile Gram. Il s'agissait d'une machine assez simple qui était en même temps moteur et générateur d'énergie. Et cette machine produisait du courant continu. C'était juste un simple anneau qui était relié à un rotor et qui produisait des étincelles.
Nous sommes en 1875,
Tesla n'a que 19 ans, il est tout jeune et le professeur qui fait la démonstration s'appelle professeur Peschel, un physicien et ingénieur reconnu. Peschel fait sa démonstration et Tesla, par une intuition inexplicable, se montre audacieux. Il ose affirmer « Je crois que cette machine fonctionnerait mieux si on utilisait du courant alternatif. »
Professeur Peschel était un homme méthodique et typiquement allemand. Il avait des mains et des pieds énormes, comme les pattes d'un ours. Néanmoins, il menait ses expériences avec beaucoup d'adresse et une précision d'horloger, sans jamais faire la moindre erreur. C'est au cours de ma deuxième année à l'Institut que nous reçûmes une dynamogramme de Paris, qui avait un aimant inducteur laminé en forme de fer à cheval et une armature entourée de fils avec un commutateur. Elle fut branchée et le professeur Peschel nous montra des effets variés du courant. Tandis qu'il faisait les démonstrations, la machine fonctionnant comme un moteur, les balais posèrent problème en lançant des étincelles. Je fis alors remarquer que l'on pouvait faire fonctionner un moteur sans ces dispositifs. Là-dessus, il déclara que j'avais tort et nous gratifia d'un cours particulier sur le sujet, à la fin duquel il observa « Monsieur Tesla est peut-être capable de faire de grandes choses, mais il lui est impossible de réussir sur ce point.
Cela reviendrait à convertir une force d'attraction constante comme celle de la gravité en mouvement de rotation. En d'autres termes, en mouvement perpétuel. Ce qui est inconcevable.
Le professeur Peschel a arrêté la démonstration. Tesla était déjà un étudiant remarqué, pas forcément en tant que génie, mais comme un surdoué capable de réciter Goethe, Shakespeare ou Byron par cœur, ou de résoudre des équations vraiment très difficiles. Mais le professeur Peschel a certainement dû se dire, bon, c'est trop, ça suffit. Il faut vous mettre à sa place. À 20 ans, il est déjà bourré de talent, de savoir-faire, d'idées. Mais il fallait qu'il trouve quelque chose pour exprimer toutes ses qualités. Il fallait que ça sorte quelque part. C'était comme un volcan avant l'éruption. Et donc, à partir du moment où son professeur lui a dit « Vous n'allez jamais faire cette invention », il a mis toute son énergie dedans. Et cette invention, c'est le moteur à induction. La différence entre les gens ordinaires et les génies, c'est que nous ne sommes pas prêts à mourir pour une idée. Je crois que lui était prêt à mourir pour cette idée. Il est arrivé à un tel point de tension qu'il craignait de faire une syncope ou une rupture d'anévrisme. Il a mis toute son énergie dedans. Et cette invention, c'est le moteur à induction.
Il y aura toujours des gens pour ne pas connaître Nikola Tesla. Mais ces dernières années, il connaît un regain d'intérêt. Pourquoi ? Parce que Tesla est l'exemple même du héros universel. Il a certaines caractéristiques qui font qu'il y a toujours cette lutte en lui. D'un côté, il a ce trait à la fois hautain et prométhéen. De l'autre, il est très humble, où il s'avoue même impuissant devant le monde et la nature.
Après ses trois premières années d'études à Graz, il ne se sent plus vraiment à sa place.
Prvo zbog toga što nije mogao da dobije stipendiju, govorimo o politehnici u Grazu.
D'abord, il n'a pas eu la bourse dont il avait besoin et il trouvait aussi qu'il pesait un peu sur ses parents. Mais je pense surtout qu'il y avait une sorte de saturation. Le sentiment aussi que peut-être ça ne servait plus à grand-chose maintenant qu'il avait son idée de moteur à induction. Quoi qu'il en soit, il arrête ses études à Graz pour aller travailler à Maribor, en Slovénie actuelle. Et il commence à y travailler. Là-bas, il tombe dans le jeu. Il est même arrêté par la police à cause d'excès. On le ramène sous chez son père. Vous imaginez, c'était la honte pour un prêtre orthodoxe.
Je pense que nous rencontrons tous le diable à un moment donné. Mais c'est ce qu'on en fait qui fait la différence entre les hommes. C'est-à-dire le parti qu'on choisit. C'est la morale et l'éthique qui différencient les gens. Je crois que c'est une des raisons pour laquelle Tesla attire autant de personnes. Parce qu'il y a chez lui cette histoire de la lutte qui est en chacun d'entre nous. Et lui, ce qu'il a cherché, c'est la morale et l'éthique dans la science.
C'est à ce moment-là qu'il décide de suivre la volonté paternelle. Il s'inscrit à un semestre de philosophie à Prague, puis part à travailler à Budapest. Et c'est à Budapest qu'il se penche sérieusement sur son invention.
Je crois que Tesla a su qu'il était un inventeur au moment où il a compris qu'il possédait la force nécessaire pour remédier à ses passions. Il a été accro aux jeux et à d'autres passions. Ce sont des rencontres avec les démons. Je ne sais pas si c'était en pleine conscience qu'il a compris ça. Mais à un moment donné, il a compris qu'il pouvait faire.
Son moteur à induction est une découverte issue d'un processus de 5 ans de réflexion. Pendant ces 5 ans, il s'est focalisé, c'est le mot international. En serbe, nous avons un mot qui, je pense, pourrait être traduit en français par « recentrer ». On a tout autour de soi, mais on essaie de trouver un centre et de s'orienter vers un seul point dans son centre. Et ça veut dire qu'on exclut tout ce qui est autour de ce centre. On se recentre, et il l'a fait pendant 5 ans, et il a exclu tout le reste de sa vie. Et ça s'est terminé par cette dépression nerveuse qu'il a fait à la fin, mais également par cette invention.
À Budapest, je pouvais entendre le tic-tac d'une pendule qui se trouvait 3 pièces plus loin. Une mouche venant se poser sur la table dans la pièce créait un bruit sourd dans mon oreille. Une voiture roulant à plusieurs kilomètres de moi faisait trembler tout mon corps. Le sifflement d'une locomotive passant entre 30 et 50 kilomètres plus loin faisait vibrer le banc ou la chaise sur lequel j'étais assis à un point tel que la douleur devenait insoutenable. Le sol sous mes pieds n'arrêtait pas de trembler. J'avais souvent l'impression que des grondements proches ou lointains se transformaient en paroles effrayantes. Lorsque j'interceptais périodiquement les rayons du soleil, je ressentais dans ma tête des coups d'une telle violence qu'ils m'étourdissaient. Il me fallait rassembler tout mon courage pour passer sous un pont, car j'avais alors l'impression qu'on enfonçait mon crâne.
Da zaključim na pitanje kakva je bila njegova metoda, možemo da kažemo da je bila eksperimentalna.
Sa méthode consistait à faire des essais et il rétrécissait le champ de ses essais.
Imao neku vrstu.
Une autre spécificité de Tesla consistait à avoir des images mentales. Il avait ces images et ces visions depuis l'enfance. C'était quelque chose qui le dérangeait beaucoup, mais il a réussi à maîtriser ce phénomène et à le transformer en un outil qu'il appelait la visualisation.
I vidite, to sada otvara još jedno interesantno pitanje koje je vrlo za nas aktualno danas, čini mi se.
Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il projetait des images 3D dans son esprit. Et il était convaincu que cette méthode était accessible à tous.
À Prague, il envisage déjà mentalement comment séparer l'interrupteur et les brosses dans la machine à dynamo. Mais c'est pour cela aussi qu'il ne termine pas ses études là-bas, parce que le fait d'étudier l'empêche de travailler, d'expérimenter ses inventions. Et à ce moment-là, il lui faut des conditions de travail différentes de celles qu'il a en tant qu'étudiant. Ce qu'il lui faut, c'est une certaine expérience pratique de travail, mais également un salaire. Et ces deux conditions, il les trouve à Budapest.
La compagnie de téléphone pour laquelle il travaille a été créée par un certain Tivadar Puskas. Et Puskas avait les droits d'exploiter toutes les inventions d'Edison partout en Europe. Et dès le milieu des années 1870, Edison, qui n'a jamais été à l'université et qui a appris seul tout ce qu'il sait de l'électricité et de la télégraphie, pense déjà à vendre ses brevets, pas seulement à des entreprises aux États-Unis, mais partout dans le monde, et en particulier en Europe. Après avoir inventé la lampe électrique à incandescence, Edison monte donc une entreprise. Et à partir de 1879, il ouvre des succursales en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, et même à Budapest et en Autriche-Hongrie. C'est dans ce contexte que Puskas introduit Tesla dans la société d'Edison. Et Tesla intègre la compagnie d'Edison au moment où celle-ci est déjà une multinationale.
À Budapest, il a de bonnes conditions de travail. Il est reconnu en tant qu'ingénieur. Il se sent bien dans sa peau. Et c'est là qu'il invente le champ magnétique tournant.
L'un des endroits où il va régulièrement est l'usine dirigée par Abraham Gantz à Budapest, où il y a une équipe d'ingénieurs. Il y a Zipernowski, Blatty et Derry, qui ont déjà fait des expériences avec des transformateurs. Et un jour, Tesla remarque qu'un transformateur est en panne. C'est là qu'il étudie les transformateurs, qui ont la forme d'un gros donut, d'une couronne, avec des bobines de chaque côté. Et un jour où il est présent, les techniciens font des expériences et réussissent à alimenter en courant alternatif un côté du donut et à alimenter l'autre côté avec une autre phase. Et Tesla prend alors une bille en acier et la place au sommet du transformateur. Il faut bien imaginer que le transformateur a des parois en bois et qu'il est recouvert d'une plaque en bois sur laquelle sont posés le petit roulement et la bille. Et à ce moment-là, la petite bille d'acier se met à tourner sur elle-même. Tesla a cette intuition que le courant alternatif peut créer le champ magnétique rotatif dont il a besoin pour mettre au point son moteur.
J'ai apporté avec moi Faust, l'œuvre de Goethe. Et il est intéressant de voir à quel point ce livre a été présent dans la vie de Tesla. À tel point qu'il en parle dans son autobiographie aussi, et il cite un poème. Et il le cite parce qu'au moment de sa plus grande découverte, il raconte qu'il récitait ses vers.
Un jour de février, un après-midi, Tesla se promène avec son ami Zighetti, qui l'a beaucoup aidé à sortir de sa dépression nerveuse. Il se promène dans le parc central de Budapest. Tesla récite un poème de Goethe qui décrit un coucher de soleil à la fin du jour. Et c'est là que cette énergie recentrée en lui a trouvé une sortie. Qu'il a cru que son cœur allait s'arrêter de battre. Il raconte qu'il a vu des éclats de lumière partout, des lumières tellement fortes qu'il a cru que son cœur allait s'arrêter de battre.
Comme Tesla, je l'ai beaucoup lu. Et une fois, en le lisant, je me suis dit, en fait, Faust, c'est Tesla.
Oh, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man. Und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch lass uns dieser Stunde schönes Gut, doch solchen Trübsinn nicht verkümmern. Et le soleil descend dans le jour accompli. Il fit pour engendrer des formes nouvelles. Ah, pour l'accompagner, que n'ai-je donc des ailes qui m'enlèvent bien loin de ce sol avili. Beaux rêves dont déjà s'éteignent les accords. Pourquoi faut-il que je ne réponde à l'aile de l'esprit, aucune aile du corps ?
Lorsque je prononçais ces mots évocateurs, une idée me vint comme le flash d'un éclair, et la vérité me fut instantanément révélée. Avec un bâton, je dessinais dans le sable les diagrammes que mon compagnon comprit sur le champ. Je devais les présenter 6 ans plus tard à l'Institut américain des ingénieurs en électrotechnique. Les images que je voyais étaient claires et nettes. Elles avaient la solidité du métal et de la pierre. Si bien que je lui dis « Vois ce moteur et regarde comment je vais l'inverser. » Je ne peux pas vous décrire mes émotions. Pygmalion, lorsqu'il vit sa statue se mettre à bouger, ne put avoir été plus ému que moi. J'aurais donné 1000 secrets de la nature pour celui que je venais de lui extorquer contre toute attente. Et au péril de ma vie.
Ce passage de Faust, cette parole de Faust, porte en elle la force de la transformation intérieure. Ceci caractérise également le champ magnétique tournant, qui sous-entend l'existence d'au moins 2 courants. Ils ont un rapport entre eux qui impulse une rotation permettant à un moteur de fonctionner.
Il voit devant ses yeux une série d'images. C'est son moment Eureka. Et de cette série d'images, il a déposé 36 brevets. Je dirais qu'il n'y a pas, et je suis un historien des sciences, je suis bien placé pour le dire, mais qu'il n'y a pas de méthode suffisamment sophistiquée pour exprimer comment ça survient. Comment il arrive que quelque chose vous descende du ciel ou de quelque part et que vous ayez en vous une telle découverte que cette sphère éloignée tombe sur vous. Mais il ne s'agit pas de quelque chose d'imaginaire, il s'agit d'une découverte tangible et très réelle.
J'ai cherché les liens entre ces métaphores, ce poème et les découvertes de Tesla. Étant donné que je suis ingénieur, je crois que le lien se trouve dans le mouvement du soleil. Le soleil qui s'éloigne de plus en plus, ceci m'a rappelé l'équation sinusoïdale. En fait, ce mouvement, c'est-à-dire le courant alternatif, ressemble sur le papier au mouvement sinusoïdal. Le haut de la courbe en haut de l'axe, c'est le jour. Et celle qui est en bas, c'est la nuit. On peut imaginer le mouvement sinusoïdal comme une vague. Une vague d'eau. Quand une vague vient vers vous, elle arrive à un sommet. Et lorsqu'elle se retire, elle arrive à un point qui est le point minimal. On a donc cette dualité jour-nuit et le fait de tourner. Mais ce mouvement sinusoïdal dont je viens de parler, c'est également le mouvement de la nature qui se transmet à l'homme. Dans ce double courant tournant, il y a toujours cette dualité entre ce qui est matériel et ce qui est éphémère. Et c'est toujours cette lutte entre les deux, et c'est quelque chose qui est constamment présent chez Nikola Tesla, la lutte entre le spirituel et le matériel.
Les idées affluaient de manière ininterrompue, et mon seul problème était de les retenir. Les pièces des appareils que je concevais étaient pour moi parfaitement réelles et tangibles, jusque dans leurs moindres détails, et je pouvais même relever leurs tout premiers signes d'usure. En reconnaissance de mes bons services, M. Puskas, l'administrateur de l'entreprise à Budapest, m'offrit lorsqu'il céda son affaire un poste à Paris. Je l'acceptai avec joie. Je n'oublierai jamais la profonde impression que cette ville magique a gravée dans mon esprit. Après mon arrivée, je passai plusieurs jours à errer dans les rues, complètement bouleversé par ce nouveau spectacle. Les tentations étaient nombreuses et irrésistibles, et hélas, toute ma paix fut dépensée sitôt que je l'eus empochée. Je menais alors une vie très active, qui ressemblait à ce qu'on appelle aujourd'hui la mode Roosevelt. Quel que fût le temps, j'allais tous les matins de mon lieu de résidence, boulevard Saint-Marcel, à une piscine en bordure de la Seine. Je plongeais dans l'eau, en faisant 27 fois le tour, puis marchais pendant une heure jusqu'à Ivry où se trouvait l'usine de la société. C'est là que je prenais un petit déjeuner frugal à 7h30, puis attendais impatiemment l'heure du déjeuner. Entre-temps, je devais casser des cailloux pour le directeur de l'usine, M. Charles Batchelor, assistant et ami intime de Thomas Edison. Mais l'échec total de mes tentatives d'obtenir des capitaux pour le développement de mon invention fut une nouvelle déception. Aussi, lorsque M. Batchelor me pressa d'aller en Amérique avec lui et de redessiner les plans des machines Edison, je décidai de tenter ma chance au pays qui promettait monts et merveilles.
C'était Nikola Tesla, Vie électrique. Deuxième épisode, Et la lumière fut. Avec Zorica Sivrich, Jean Schnoz, Catherine Aurel, Alexandra Ninkovic-Stazic, Vladimir Pistalo, Bernard Carlson et Branimir Jovanovic. Lecture des textes de Nikola Tesla par Olivier Martineau. Lecture des éclairs de Jean Echenoz par l'auteur. Bruitage, Machine Tesla. Merci à Sophie Strobeleu. Traduction, Vesna Concar, Laurine Kalamperovitch. Doublage, Christine Bernard, Pascaline Bonnet, Nicolas Champeau et Régis Royer. Merci au musée Nikola Tesla de Belgrade et à l'Institut français de Serbie. Prise de son, Ludovic Auger. Mixage, Marie Le Peintre. Attaché de production, Marie Viguier. Documentation, Annie Signoret et Antoine Vuillose. Coordination, Christine Bernard. Une grande traversée de Matteo Caranta, réalisée par Rafik Zénine.